Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn, l'émission ciné d'RSP. On se retrouve aujourd'hui pour la 24e émission de la saison et on commence en musique. Voilà, alors aujourd'hui nous allons parler de 4 films, à savoir dans l'ordre L'Enfant d'en haut de Ursula Meyer, Nouveau départ de Cameron Crowe, Viva Riva et L'amour et rien d'autre. Et je suis en compagnie de Nina, bonjour Nina.
Salut.
De Agathe, bonjour Agathe.
Salut.
De Pauline, bonjour Pauline.
Salut.
Et de Elsa, bonjour Elsa.
Bonjour.
Alors on commence tout de suite avec L'Enfant d'en haut, donc un film de Ursula Meyer. Et avant toute présentation, je voudrais vous signaler qu'une interview de la réalisatrice est disponible sur le site d'RSP. Voilà, on a eu la chance de la rencontrer et donc on vous propose plus ou moins une demi-heure d'interview qui est vraiment passionnante et que je vous encourage à écouter. Alors, L'Enfant d'en haut, c'est un film avec Léa Seydoux, Casey Mottet-Kline et Gillian Anderson et qui raconte l'histoire de Simon, un petit garçon de 12-13 ans qui chaque hiver qui habite dans une plaine industrielle et qui chaque hiver emprunte un téléphérique qui le mène dans une station de ski huppée où il vole les équipements des clients et après les revend à ses petits camarades du bas. On va tout de suite vous passer une partie de la bande-annonce.
C'est 100% UV. Good one. 35 ça.
Tu l'as trouvé où le matériel petit?
C'est du déstockage, monsieur.
Déstockage.
Ouais, je regardais faire, c'est tout. Que ce soit lisse comme la peau de cul.
Je m'entends bien déjà?
T'as refait toute la semaine. Tu descends pas en dessous de 200.
Would you like to join us?
Yeah. Oh,
voilà, c'était donc une partie de la bonne annonce de L'Enfant d'en haut. Alors, donc pour commencer sur ce film, c'est vraiment un film qui m'a énormément plu. Parce que je trouve qu'il est à la fois très intéressant dans ce qu'il dit, à la fois extrêmement touchant et presque crève-cœur, j'ai envie de dire, et aussi parfois très très drôle. Il faut savoir que Ursula Meyer, donc c'est son deuxième film après un film qui s'appelait Home, et qui était lui qui jouait tout au long de ce film, elle jouait de l'horizontalité. Ça se passait au bord d'une route et donc on avait vraiment cet infini horizontal qui se déployait devant les personnages. Là, c'est quelque chose, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que elle prend pour thématique principale la verticalité, à savoir ces deux personnages principaux, donc Simon et sa sœur Louise, habitent dans une plaine industrielle, dans une espèce de tour HLM qui se dresse au milieu de nulle part, un peu menaçante, complètement absurde et presque abstraite. Et puis, ils sont justement au pied des montagnes avec ce téléphérique, donc qui est le câble tendu, là encore, vers le haut, vers le ciel, et qui va mener Simon vers les stations de ski où lui va pouvoir voler. Donc, déjà, dans les décors, je trouve que ça dit quelque chose de très beau parce que, à la fois, ça dépeint une société qui est divisée et qui est la réalité qu'on connaît aujourd'hui, à savoir des gens qui habitent au pied des montagnes et qui n'ont pas l'argent pour se rendre au ski, et de l'autre côté, des touristes qui viennent d'Amérique du Nord jusqu'en Suisse pour passer une semaine de vacances. Et en même temps, c'est des décors qui sont dans une forme d'abstraction. Enfin, ils disent vraiment quelque chose et c'est n'importe quel tour HLM, n'importe quelle station de ski. Et cette oscillation-là qu'il y a entre le réalisme et l'abstraction, on la retrouve pendant tout le film parce que L'Enfant d'en haut, c'est à la fois un film social, on peut dire, un peu comme les films des frères Dardenne, par exemple, mais c'est aussi et surtout, je pense, un conte. À savoir, il y a des petits éléments qui nous font penser que c'est pas totalement la réalité, notamment l'absence totale de police ou de services sociaux. Enfin, Simon et Louise sont donc un frère et une sœur qui habitent comme ça dans cette tour HLM. Elle n'a pas le temps et pas l'envie de s'occuper de son frère, donc il est souvent tout seul. Et pourtant, il y a personne qui vient leur proposer de l'aide, qui vient enfin, la société ne vient pas combler justement cet abandon et ce manque d'amour. Donc c'est un des éléments qui peut nous faire penser que ce film est un conte, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. L'idée n'est pas tant de dépeindre une certaine réalité sociologique de gens plus ou moins pauvres qui sont obligés de voler pour survivre, mais au final, je pense, de s'interroger sur l'idée de la famille, sur quels sont les liens qui font de la famille, sur justement ce thème de l'abandon qui est extrêmement présent dans le film et qui est vraiment le nœud de l'intrigue, et aussi sur cette absence de communication totale entre le frère et la sœur, le fait qu'ils aient tous les deux de l'amour à revendre et qu'on sent qu'il y a quelque chose de fort entre eux, mais en même temps ils n'arrivent pas à trouver les mots pour exprimer l'amour qu'il y a entre deux. Donc c'est un film qui est, même si c'est un conte, c'est pas pour ça qu'il est pas violent, parce que on a tout le temps une violence latente qui est pour ce qui concerne le bas, la violence des rapports entre Simon et Louise, le fait justement qu'ils n'arrivent pas à communiquer et que la seule manière pour eux de se transmettre quelque chose, c'est par l'argent. On a tout le temps Simon qui vole et qui rapporte de l'argent à Louise, qui lui achète des fringues, qui lui rapporte de la nourriture, et elle qui finit par entrer dans un petit jeu à monnayer tout ce qu'elle lui donne. Et on a, en parallèle de cette violence ancrée dans le bas, la violence du haut qui est beaucoup plus... On peut dire que cette violence du bas est un peu émotionnelle, alors que la violence du haut est plutôt physique, puisque Simon, quand il se fait plusieurs fois prendre par... soit par les gérants des hôtels et des restaurants, soit par les clients eux-mêmes qui sont volés. Et là, on voit bien qu'il se fait rouer de coups, qu'il se fait insulter, qu'il se fait traîner dans la neige, mettre dans la benne à poubelle. Donc, c'est pas parce que le film cherche à se détacher un peu de la réalité que pour autant il est pas violent. Par ailleurs, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que au-delà de la dichotomie entre le bas et le haut, entre le conte et la réalité sociale, la réalisatrice va vraiment chercher un entre-deux qui soit le juste milieu véritablement. C'est-à-dire que donc elle le fait par le genre qu'elle adopte, donc indéfini entre cette idée de réalisme et cette idée de fable, et aussi elle le montre à travers son personnage de Simon, qui finalement n'est véritablement lui-même que dans deux endroits qui sont à la fois le téléphérique. Donc le téléphérique, c'est vraiment un entre-deux-mondes, puisque c'est entre le haut et le bas. C'est une petite cabine où il peut enlever sa combinaison de ski de la journée, il peut se réchauffer un peu, il peut manger, il compte ses sous. Et également, en bas du téléphérique, il a une espèce de... un casier où il met ses affaires de ski et ses affaires de ville, et où il se change à chaque fois. Et on voit bien que c'est dans ces deux endroits qu'il est vraiment lui-même, que ses gestes ne sont pas déterminés par un but, puisque ce personnage est quelqu'un qui joue tout le temps des rôles, à savoir en bas il doit jouer le rôle du père nourricier, puisqu'il n'y a pas de parents et que Louise est beaucoup plus l'enfant de ce drôle de couple que lui, alors qu'elle est bien plus âgée. Et ça on le voit parce que en bas, il adopte très souvent des poses masculines. Enfin, l'acteur est donc Casey Motteklein, et je sais pas quel âge il a, mais il a encore qui est très frêle et plus celui d'un enfant que d'un adolescent. Et pourtant, ses poses sont tout le temps... Il essaye de bomber les pectoraux, il joue avec sa chaîne autour du cou. Enfin, il y a quelque chose de très qui tend vers l'homme d'âge mûr. Et au contraire, quand il est en haut, le rôle qu'il joue est un autre, mais aussi un rôle, à savoir que quand il enfile à la fois sa combinaison, ses chaussures de ski, son masque et son casque, on ne le voit plus, il n'y a que son nez qui dépasse. Et par cet anonymat, il se fond vraiment dans la foule des vacanciers. On pourrait vraiment le confondre avec un petit garçon venant d'une famille aisée. Donc je trouve que cette idée de chercher quelque chose, un espèce de no man's land qui est très peu défini... Enfin, le téléphérique, ce n'est pas forcément un endroit qui fait rêver, où on peut se sentir en sécurité. Et pourtant, c'est là où Simon va se réfugier, et c'est un peu... la démarche aussi que fait la réalisatrice de ne jamais choisir entre l'un et l'autre, mais de tout le temps osciller, et au final de laisser le spectateur libre de penser ce qu'il veut, à savoir libre de penser qu'elle vraiment qu'elle veut critiquer une certaine forme de société, ou au contraire qu'elle veut juste qu'elle veuille juste faire une forme peut-être d'histoire d'amour, mais entre un frère et une sœur, qui en fait a pour but justement enfin tout le film tend vers l'idée que l'on puisse se dire l'amour, quelles que soient les difficultés du quotidien qui traînent les personnages vers le bas. Donc je pense que pour toutes ces raisons, L'Enfant d'en haut, c'est un film très très beau qui m'a à la fois touchée et extrêmement intéressée, et que je ne peux que vous recommander. Nina, apparemment tu n'es pas du même avis que moi.
Ah non, pas du tout. Je suis, enfin, c'est super ton enthousiasme vis-à-vis de ce film. Moi, je m'étais rarement autant ennuyée devant un film. J'avais presque envie de demander qu'on rallume la lumière pour que je puisse faire autre chose, genre lire un bouquin, tellement il se passait rien à mon avis, et je me suis ennuyée, mais comme jamais. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a une volonté de faire une fable sociale. Or, pour moi, c'est un ratage total, quoi. Ça passe complètement à côté du but que la réalisatrice s'était fixé. Parce que elle crée ces deux mondes, entre le monde aisé, confortable, en haut, et le monde, la réalité de vivre, d'être laissé à soi-même, de vivre dans un HLM paumé au bord d'une route. Enfin, voilà, c'est assez glauque. L'idée est bonne, mais elle n'arrive pas à diffuser, à mon avis, un message assez fort, ou à réussir à faire passer des idées. Pour moi, ça reste creux, quoi. Ça reste complètement creux. J'ai pas réussi du tout à m'attacher aux personnages qui m'ont beaucoup plus énervée qu'autre chose, ou laissée indifférente, alors que quand même l'histoire est grave, mais il y a un problème peut-être de direction d'acteur, ou je sais pas, hein, ou du but qu'elle s'était fixé et qui n'est pas atteint. Je trouve que ça tombe assez rapidement dans la caricature à des moments, justement de cet enfant abandonné qui dès qu'il rencontre une américaine blonde, mère de famille avec ses enfants tout parfait, et lui saute dans les bras parce que il a un manque affectif. Enfin bon, je trouve que c'est assez caricatural.
Elle, c'est vraiment le fantasme de mère. Enfin
oui, mais
justement tout le film tourne autour de la figure maternelle.
Oui, mais justement, c'est carrément caricatural là.
Je ne pense pas. Enfin, quand il la voit, il peut pas s'empêcher. C'est vraiment une attraction irrésistible, d'autant que, enfin, c'est pas n'importe qui. C'est Jillian Anderson de X-Files, enfin, qui est pas non plus la dernière mocheté du monde.
Non, mais j'ai trouvé ça purement caricatural.
Je pense vraiment pas, parce que cette idée justement qui parvienne à s'immiscer dans une cellule familiale dite normale, c'est quelque chose de beau et qui montre qu'il y a une communication possible entre différents mondes, entre différents modes de vie.
Ouais, moi je l'ai pas du tout perçu comme ça. Je trouve qu'il n'y a aucune communication, justement, puisque le contact ne se crée pas vraiment, puisqu'il essaie d'avoir une attitude très masculine avec, mais que finalement c'est un petit enfant qui a besoin d'un amour maternel, et c'est hyper visible. Elle fait la caricature de la femme riche, blonde, parfaite, avec ses enfants parfaits, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune nuance, quoi. Et finalement, elle s'en va et lui reste là. Enfin, je veux dire, c'est quand même très, très.
Oui, parce que lui appartient pas à ce monde, oui, même s'il peut réussir à se fondre dans la masse et au final à voler des instants qui
appartient à ce monde-là. Il n'y a aucun contact entre ces mondes-là.
Il s'en fait toujours rejeter. Si, il y en a un, qui est à la fois le téléphérique, qui est à la fois Simon, qui parvient parfois à rentrer dans ce monde-là, mais au final, comme il en trahit les règles les plus essentielles, il se fait toujours rejeter.
Ouais, mais non, enfin, tant mieux, c'est vraiment des perceptions. Moi, j'ai trouvé que c'était assez caricatural, que la différence entre les deux mondes était assez bien faite, mais que la nuance par le téléphérique était beaucoup trop faible. Ensuite, cette volonté en plus de tirer les traits de Léa Seydoux au maximum et de la faire s'habiller hyper mal et avoir des grosses cernes pour qu'on se dise oui, en effet, la vie est dure. Enfin, moi, j'ai pas accroché.
C'est plutôt drôle de voir que... Non, mais c'est vrai, Léa Seydoux, on en a tellement l'image de la jeune fille idolâtrée qui est toujours magnifique, que là, de la voir dans ce rôle-là où elle pisse derrière un sapin...
Non, mais encore une fois, il n'y a pas de nuance, elle a des cernes énormes, elle est habillée comme sortant du... Enfin, vraiment, la pouf des années 80.
La nuance n'est pas dans son costume ni dans son apparence physique, la nuance
mais
est
même
finalement
dans
ce qu'elle dit et dans ce que son personnage transmet.
Bah, pour moi, justement, pas du tout, quoi. Vraiment, vraiment, pour moi, c'est pas du tout atteint. Et ensuite, j'ai trouvé donc que la réalisatrice essaye de se mettre dans cette lignée de la fable sociale, avec aussi quelques jolis plans, des silences qui en disent beaucoup, une lumière qui arrive en biais sur le visage des acteurs. Ce qui, normalement, moi, j'en suis toujours très friande, sauf que là, bon, oui, on se dit qu'il y a quelques jolis plans. Les plans sur la montagne sont assez jolis. Quelques plans, notamment une des dernières scènes où on les voit tous les deux avec de la lumière, enfin avec une jolie lumière du soleil, c'est bien, mais bon, c'est la seule chose qu'on peut sauver. Et ensuite, voilà, cette fin, un peu essayer de faire genre à la 400 coups, bon, moi ça m'a pas plu du tout. Bon, voilà, non, en gros, j'ai vraiment, vraiment pas aimé, je me suis ennuyée, mais bon, c'est aux spectateurs d'aller se faire, à nos auditeurs d'aller se faire leur propre opinion.
Pauline ?
Je vais essayer de synthétiser tout ce que vous avez dit. Je suis plutôt d'accord avec toi, Philippine. Du point de vue de l'image, j'ai été aussi très sensible par les plans très verticaux. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, en fait, de filmer justement la plaine. Et c'était d'autant plus intéressant qu'elle soit encastrée dans une montagne. Parce que les plans, je trouve, ont vraiment réussi à retranscrire cette sorte d'oppression et de désert culturel. De personnes, on voit absolument rien, on a que des routes, comme tu dis, c'est exactement ça, c'est un no man's land. Pour aller chez eux, Louise et Simon sont obligés de traverser un champ plein de terre, donc ils se traînent dans cette terre, donc il y a ces étendues là et cet espace vide qui est intéressant et qui contraste, comme tu l'as dit, avec l'effusion de la station de ski. Moi, j'étais sensible à ces deux environnements là et au contraste. Au niveau des personnages, j'ai beaucoup apprécié également leur performance, parce que je trouve que Léa Seydoux est plutôt crédible pour une fois, parce que je trouve qu'elle ça lui va assez bien, en fait. Ce jeu d'inversion des rôles, en fait, où le petit va lui filer son argent pour ses jeans, va lui faire la morale, va, comme tu dis, avoir une démarche masculine en ôtant son Marcel Blanc et en faisant la lessive, en mettant nonchalamment son Marcel Blanc dans la machine. Donc tout ça, c'est assez rigolo. Donc oui, il est assez doux, elle a des allures de gamine insolente, elle a un visage renfrogné, donc vraiment un côté capricieux. Et d'ailleurs, on soupçonne pas du tout son âge, c'est plutôt à la fin qu'on découvre, sans vouloir spoiler, mais... Et du coup, c'est cet aspect-là d'ado, quoi, insupportable, qui était finalement assez rafraîchissant. Et j'ai bien aimé aussi leur jeu, leur incarnation corporelle, c'est-à-dire que c'est assez bien filmé là-dessus aussi, parce qu'on a vraiment... On a Simon, ce petit gringalet, qui est vraiment filmé dans l'immensité de la montagne et au milieu de tous les skieurs. Et c'est vraiment une petite silhouette qui déambule comme ça, qui a une gestuelle très précise, qui va voler coup sur coup le moindre truc qu'il peut. Il est tout le temps avec ses skis, il est très combattant dans son corps. Donc ça, c'était vraiment rigolo, je trouve qu'il joue vraiment très bien ce rôle-là. Et Léa Seydoux, quant à elle est toujours déhanchée avec ses super bottes blanches dont on se souviendra. Donc voilà, pour moi, c'était plutôt un film réussi.
Alors, le quota blockbuster de la semaine, c'est Nouveau départ de Cameron Crowe avec Matt Damon, Scarlett Johansson et Elle Fanning, entre autres. Et c'est donc l'histoire d'un nouveau départ d'un père et de ses deux enfants qui décident de déménager et d'emménager dans un zoo qu'il va falloir ensuite sauver de la faillite. On vous passe tout de suite une partie de la bande-annonce.
Hey Rosie, am I doing anything right?
You're handsomer than the other dads. Both of them don't have hair, so that's good.
Attempt to start over.
I shall try to start over.
Sunlight. Joy.
I salute you in the great times we had together, and I quit.
We just want new. We want new everything. New opportunities, new schools, just new.
This is exactly what we've been looking for.
It's a bit complicated.
What's so complicated about this place?
It's a zoo.
Voilà, alors Elsa, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Est-ce que tu vas réussir à détromper l'impression de kitsch extrême qui se dégage à la fois de la bande-annonce et de l'affiche de ce nouveau départ ?
Alors, je ne vais pas complètement te détromper, Philippine, c'est-à-dire que c'est bien le film que vous pensez que c'est.
Donc c'est pas trop mal réussi dans le genre, même si effectivement c'est pas un grand moment de cinéma et que c'est sitôt vu, sitôt oublié. Alors pour revenir rapidement sur le scénario dont a déjà parlé Philippine, c'est l'histoire de Benjamin Mee, interprété par Matt Damon, donc un papa dont la femme vient de mourir et qui va décider avec ses deux enfants de les embarquer dans une grande aventure, l'achat d'un zoo qui va être effectivement assez difficile de sauver de la faillite, mais devinez quoi, il sera finalement sauvé. Voilà, je suis désolée, je vous ai gâché la fin. Donc effectivement, le scénario est assez téléphoné. Malgré tout, il y a quand même deux, trois belles scènes qui, je trouve, sortent quand même un petit peu du circuit préfabriqué hollywoodien. Donc notamment, moi j'ai trouvé une très très belle scène de dispute entre Matt Damon et son fils, qui sort peut-être, manque peut-être un petit peu d'enjeux dramatiques, mais qui cependant est un assez beau moment. Il y a aussi certaines scènes assez justes, notamment avec le personnage secondaire qui est celui du frère. Malheureusement, je ne me souviens pas du nom de l'acteur qui l'interprète. Donc vraiment des moments assez drôles, assez touchants. Un personnage qui apporte de la fraîcheur, une certaine dose d'ironie dans le film qui est pas mal venue. Après, malheureusement, j'ai trouvé qu'en dépit d'un Matt Damon qui est assez bien, qui fait ce qu'on lui demande de faire, et d'une petite fille qui est absolument craquante, mais vraiment, ces moments à l'écran sont du pur bonheur, j'ai trouvé que la distribution pêchait quand même pas mal, notamment le rôle d'Elle Fanning qui est absolument catastrophique. Donc je ne sais pas exactement quelles ont été les directions d'acteurs qu'on lui a données. Ça devait peut-être pas être terrible, mais je crois qu'elle est comme c'est pas une grande actrice.
Et c'est pas la pire des idiotes hein, non plus. Elle a eu des très très beaux rôles. Et
je l'ai connue,
notamment dans le Coppola, enfin d'ailleurs chez Coppola, père et fille, puisque
on l'a connue meilleure effectivement. Mais bon, je suis pas sûre que elle sera toujours dans le circuit à 30 ans. Enfin bon, le temps nous le dira. Toujours est-il que c'est vraiment un pas très grand rôle dans sa carrière. Vraiment, ces apparitions à l'écran, on a envie de la claquer à chaque fois. Donc des beaux moments de niaiserie vraiment en direct. Donc si vous voulez, cela dit, vous rigoler, vous pouvez aller la voir. On a aussi une Scarlett Johansson. On ne sait pas bien pourquoi on la retrouve dans ce type de film. C'est assez étonnant. Et surtout qu'elle fait bien la plante verte. Avec vraiment un rôle pas très intéressant, beaucoup de plans sur son visage énamouré qui regarde Matt Damon avec admiration. Donc vraiment, j'ai pas bien compris ce qu'elle faisait là. En plus, un sex appeal pas très poussé. Donc elle est même pas très réjouissante à regarder dans ce film. Donc vraiment une déception. Donc globalement, qu'est-ce qu'on en retire? C'est un film familial sympathique. Ça a quand même coûté 38 millions d'euros, donc c'est un petit peu dommage comme résultat. Maintenant voilà, vous savez ce que vous allez voir. Donc si vous vous attendez à une petite comédie made in the US sympathique, voilà, vous pouvez aller voir Nouveau Départ.
Agathe?
Donc je suis très d'accord avec toi dans le sens où c'est vraiment la comédie hollywoodienne sympathique où l'intrigue est téléphonée de bout à bout. Dès que le film commence, on sait tout de suite qui va tomber amoureux de qui au premier regard. Mais je pense que finalement c'est un film qui marche parce qu'au-delà de toutes ces images hollywoodiennes, c'est quand même chargé d'émotions. En tout cas personnellement ça m'a touchée, même si ça rentre jamais dans le tragique. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin de nous raconter des choses tristes pour nous émouvoir. Ça marche plutôt bien. Et ça aborde aussi le deuil, en fait, dans la famille traditionnelle américaine. Et plus par la dispute, justement, du père et du fils, plus la place de chacun, en fait, dans ce deuil. Et on voit très bien que Matt Damon, qui se lance tête perdue dans cette aventure, aventure d'ailleurs dont on nous parle pendant tout le film, avec l'équipe d'aventuriers, d'ailleurs très caricaturée, donc il le rappelle souvent, cette aventure qui marche. Il avance à tête perdue dans cette aventure et il en oublie quelque peu son fils. Il avance dans cette aventure parce qu'il est attendri justement par sa fille trop craquante, trop mignonne, qui lui rappelle trop sa femme décédée dans des circonstances tragiques, et ce fils complètement perdu, qui prend même des côtés absolument macabres avec son pseudo-art horrible. Et c'est ça, voilà, qui est vraiment intéressant, je trouve, au-delà des histoires d'amour complètement... qui n'ont pas d'intérêt dans le film, puisque entre Scarlett Johansson et Matt Damon, il n'y a aucun intérêt. Vraiment, pour moi, c'est vraiment la place de chacun dans le deuil.
Alors, moi, j'aimerais juste nuancer sur l'histoire d'amour de Matt Damon et Scarlett Johansson, justement. Moi, c'est un point qui m'a plutôt plu dans le film, c'est que j'ai trouvé qu'on repoussait à chaque fois le dénouement de l'histoire d'amour, ce qui était plutôt assez intelligent. Donc ça c'était traité relativement en nuance, même si on connaissait le dénouement. Finalement, le fait qu'il tarde comme ça à arriver, qu'il y a à chaque fois des événements qu'il repousse, mais pas des grandes choses dramatiques, plutôt la vie qui fait que parfois on n'a pas toujours ce qu'on veut au bon moment, ça j'ai trouvé que c'était plutôt un point positif du film.
Moi, je suis assez d'accord avec... Bon, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je ne vais pas en remettre une couche pour le consensus mou. Mais je suis assez d'accord. Moi, je m'étais fait tout le scénario dans la tête. Évidemment, tout s'est passé comme j'imaginais. Sauf ça. C'est-à-dire que... la place de la femme décédée est quand même assez importante. Du coup, on repousse. C'est pas fait... Enfin, on n'a pas l'impression que on aurait pu penser que l'histoire d'amour arriverait bien avant et se déroulerait assez différemment. On n'a pas eu la règle des 3 R qui normalement sied dans ces circonstances de la rencontre, rupture, réconciliation, ce qui fait assez plaisir en fait. Donc voilà, après c'est une comédie familiale qui n'apporte aucune surprise, mais qui est somme toute pas désagréable, même si les acteurs par contre sont beaucoup moins agréables à regarder que qu'est-ce qu'on aurait pu penser avec une telle affiche. Il y a l'acteur qui joue le personnage du frère de Matt Damon est assez rigolo. Il y a une troupe de weirdos là qui s'occupe du cirque, du zoo pardon, parce qu'ils parlent souvent de cirque mais c'est pas ça, ils font un peu troupe de cirque en fait, plus que de zoo, donc ça c'est attendu, mais bon, ça peut être un peu rigolo. La petite fille est super mignonne, il y a une relation père-fils. Moi je pense qu'ils auraient pu changer un peu les dialogues dans la dispute, ouais. Ou changer un peu la trame dramatique parce que il y avait beaucoup de potentiel à cette scène clé de la relation père-fils, et ils se sont un peu ratés quand même dans les dialogues, mais l'idée était là quoi.
Non, c'est vrai que la relation père-fils devient intéressante, enfin au moment où elle devient vraiment intéressante, je trouve que ça se résout un peu simplement.
Ah oui,
dire que le lendemain au matin, le père et le fils, il n'y a plus de soucis, et ce fils qui était complètement traumatisé par la mort de sa mère re-rentre dans le circuit familial avec
sans que le père, en sachant que le père laisse beaucoup faire au fils quoi. Et c'est ça qui m'a un petit peu dérangée, c'est-à-dire que dans son dialogue on a l'impression qu'à un moment donné il se met à son niveau, non c'est toi qui es méchant, qui fais chier, t'as pas à être triste comme ça. Alors ce qu'on peut, enfin, mais il n'y a pas eu de compensation à un moment donné du père qui dit vraiment un truc réconfortant etc à son fils, mais bon c'est pas grave, je vais pas refaire ça, c'est une petite note, sinon c'est égal à ce qu'on s'attend en allant voir ce film.
En fait ce qui est dommage dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui avaient effectivement un fort potentiel, et à chaque fois on finit par s'éloigner justement de toute l'intensité dramatique qui aurait pu être contenue dans la scène. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est-à-dire qu'on a un résultat qui est finalement assez décevant, alors qu'il y avait une certaine finesse dans le traitement qui aurait pu nous donner un résultat tout à fait différent.
Ils auraient pu tenter d'être un peu plus originaux, d'aller un peu plus loin quoi, dans le travail, à mon avis, d'écriture de scénario, ce qui n'a pas été fait, mais au moins ils savent quel est le public qui touche à mon avis, et je pense que c'est réussi dans ce sens-là quoi. C'est une comédie familiale, ils essayent de faire que les parents puissent y aller avec leurs enfants quand même au cinéma, et sinon s'ils avaient pris une autre, non mais ils auraient pu prendre un tout autre chemin. Et dans ces cas-là, ça aurait moins été...
Juste pour rappeler, je pense qu'ils jouent beaucoup aussi sur le fait que c'est une histoire vraie.
Ah oui, oui.
Donc, et ça appuie aussi le sens du film. C'est une histoire vraie, donc du coup...
Ouais, ça a le potentiel mélo, parce qu'on sait que c'est vraiment arrivé. Et voilà. Non, mais c'est gentil et comme tout. Je veux dire, ça bon, c'est pas, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est agréable.
Alors, je ne sais pas si on trouvera les larmes dans Viva Riva, mais je pense qu'on trouvera peut-être plus d'originalité. Donc, Viva Riva, c'est un film de Jotunda Wamunga. Et je vais laisser à Pauline le soin de vous résumer ce film.
Oui, alors, Viva Riva, c'est l'histoire donc de Riva qui débarque à Kinshasa pour tout mettre sans dessus dessous. En fait, Riva, c'est un homme, un jeune homme qui est qui trempe en fait dans du trafic de pétrole, puisque à Kinshasa le carburant vient à manquer et du coup on a tout un trafic qui s'organise autour de ça, dans lequel Riva est impliqué, pardon. Et donc Riva va être poursuivi par une bande effrayante de gangsters angolais qui vont à tout prix essayer de le chercher dans la ville complètement folle qu'est Kinshasa. Et donc c'est vraiment l'histoire de cette course violente et sulfureuse.
On vous passe une partie de la bande-annonce.
Every day is a struggle. And every night is a party.
Alors, Nina, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?
Alors, ce film pour moi est une très bonne surprise. Alors, en fait, c'est pas forcément juste le résultat, mais c'est le potentiel incroyable que j'ai trouvé. Je ne sais pas si c'est dans le réalisateur, dans la direction, dans l'ambiance hyper particulière de ce film Made in Congo totalement, et qui crée un style un peu nouveau en fait. C'est une série B à Kinshasa avec une ambiance sexe, drogue, malfrat, violence, bon, pas rock'n'roll, mais musique de Kinshasa, bon, c'est assez fou. On a une espèce d'entrée assez violente dans cette ville, qui a quand même une aura particulière quand on parle de Kinshasa, etc. Il y a tout un environnement qui se crée un peu mythique, quoi, sur ce que peut représenter cette ville. Et là, c'est vrai qu'on est en plein dans le monde des malfrats, dans les soirées, dans la nuit sale, et dans tout ce qu'elle a de sale, de sauvage, de glauque, mais en même temps d'alcool, de danse, de musique à ne plus en pouvoir et tout. C'est quand même vraiment particulier. Ce film est d'une violence assez rare quand même, je tiens à le noter. Et en même temps, là où j'ai trouvé que c'était quand même incroyable, c'est qu'il y a une dose d'humour en noir tellement grande qu'on peut exploser de rire au milieu d'une scène de violence épouvantable. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même très très fort, parce que c'est assez rare, quoi. Et il y avait des explosions de rire dans la salle à des moments où il y avait des gens qui se faisaient buter très violemment. Et ça met mal à l'aise, mais en même temps, c'est quand même assez extraordinaire. Le film a été entièrement fait à Kinshasa par des acteurs et un réalisateur congolais. Alors qu'on ne peut pas dire qu'il y ait une scène artistique et culturelle absolument florissante là-bas. Donc c'est quand même bien de le noter, quoi. J'ai lu que c'était un peu le néant de la vie ciné, donc je trouve que c'est quand même, enfin c'est ce que j'ai lu, et c'est assez admirable de la part du réalisateur. Les acteurs sont quand même assez bons, quoi, vraiment, ils sont assez impressionnants.
Peut-être pour les citer, j'ai les noms ici. Alors il y a Patcha Bay, donc le personnage principal, Manny Malone et Oja Fortuna.
Donc voilà, tous ces acteurs sont très bons. On sent la rivalité Angola-Congo quand même de façon très très forte. Et voilà, c'est assez intéressant. Mais bon, il faudrait que le réalisateur puisse se détacher un tout petit peu plus du côté série B, parce que c'est vrai qu'il y a quelques scènes qui font un peu téléfilm de pas très très bonne qualité. Et en même temps, c'est complètement contrebalancé par des moments de grâce, quoi. Je trouve où c'est très bien filmé, où les acteurs sont très bons. Donc il y a un peu un déséquilibre qui, à mon avis, avec plus de peut-être d'expérience, pourra être mieux développé, et le réalisateur pourra sortir un peu plus du côté série B. Mais en fait, pour une fois, ça m'a pas dérangé, quoi. Que le scénario soit un peu tiré par les cheveux parfois, que bon, ça c'est assez évident. que ce soit très très violent, bon, qu'il y ait des phrases quand même, il y a des moments, enfin c'est, il y a des punchlines, c'est incroyable quoi, qui pourraient passer soit pour un film comique, soit pour oui un téléfilm un peu mauvais ou qui passe à 3h du matin quand on pense que personne ne le regarde, et en même temps tout ça crée une quand même extrêmement bonne surprise d'un film complètement made in Kinshasa, donc voilà, j'étais agréablement surprise.
Agathe, une bonne surprise également?
Une bonne surprise, un peu traumatisante par ailleurs, mais plutôt une bonne surprise. Je pense aussi que ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de violence, mais finalement il y en a tellement qu'à la fin, c'est pas de la violence tragique ni quoi que ce soit, c'est vraiment de la violence pour la violence. Il y a aussi quelque chose autour des valeurs, c'est-à-dire que c'est un monde où tout est pour l'argent. Tout tourne autour de ça et aussi du sexe, mais le sexe c'est plus en périphérie du film, mais il y en a beaucoup. Et cette histoire de valeur, on la voit aussi dans la corruption totale de la religion dans le film, où il y a une commandante en fait qui a finalement beaucoup de valeur et qui se fait embarquer par ces Angolais absolument ignobles et sans foi ni loi. Et elle finit déguisée en bonne sœur à massacrer tout le monde, comme finalement ils le font eux. Et alors qu'elle avait, mais encore au milieu du film, quelques valeurs et quelques remords à faire ça, à la fin on voit que tout le monde agit pour son propre intérêt. Et c'est finalement très effrayant, au-delà de la violence de l'image, parce que... c'est un film quand même enfin, il y a quelques scènes qui sont quand même assez insoutenables, que ça soit même presque plus au niveau du sexe, j'ai trouvé, que de la violence. C'est pour moi vraiment montrer que le manque d'argent mène à perdre toute valeur et toute foi en soi. Et j'ai relevé...
Il y a un petit côté état de nature obscien, quoi, quand même. C'est vrai qu'on a l'impression que... Enfin, je veux dire, il y a aucune autorité nulle part. Tout le monde joue pour son propre compte. Et la seule défense qu'ils ont, c'est des personnes qu'ils payent pour être leur garde. On voit que la justice est corrompue, que tout le pouvoir, l'armée, les forces de... Enfin, la police, etc., tout est corrompu de partout. L'église aussi, quand même, tu viens de très bien le notifier, c'est quand même une catastrophe. Bon, on voit quand même qu'il y a aucune règle nulle part, si ce n'est celle de la violence et du sexe et de l'argent, en fait. L'argent est le maître mot de tout, et ensuite pour arriver à l'argent on passe par plein de choses. Et je suis assez d'accord avec toi sur le sexe. Il y a des scènes quand même très crues, et même par rapport à la danse, c'est très suggestif. Et bon, ça crée quand même un environnement en effet où il y a un désordre total, avec quelques valeurs qui ressortent, notamment les femmes qui se battent comme des hommes et qui ont... Enfin, ça m'a vraiment choquée, quoi. Dans le sens, c'est très bien de voir enfin des femmes être virulentes, mais elles se prennent les mêmes coups que les hommes. Les hommes n'ont aucun souci à les taper pareil ou à les buter comme les... Enfin, bon, c'est vraiment... c'est vraiment chacun pour soi et tous contre tous.
Et donc le déchaînement de violence aussi, c'est ça qui donne le rythme au film, j'ai trouvé, avec la musique. Et c'est vraiment un rythme effréné. Le fait que tout le monde se fasse tuer tout le temps, on en prend... l'intrigue est assez simple. J'ai trouvé du coup c'était un peu long sur le milieu du film, parce que c'est toujours... en fait, c'est Viva Riva, c'est à la recherche de Riva, en quelque sorte, par les Angolais. Et donc sur le coup, c'est un peu long au milieu. Et j'ai aussi relevé deux personnages qui sont intéressants et justement qui sont un peu à la périphérie de toute cette violence. Et c'est en fait une jeune femme que rencontre Riva, dont il dit tomber amoureux, mais au milieu de tout ce bazar, on peut jamais savoir si c'est de l'amour, du sexe ou...
Elle est d'une beauté incroyable.
Elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle et très provocante au début, comme toutes les femmes qu'on peut voir dans ce film. Et elle se révèle... elle n'est pas congolaise. Et finalement, on voit qu'elle se détache de ce milieu et qu'elle... qu'il lui reste des valeurs. Et c'est ça qui est intéressant. Cette femme est aussi un enfant auquel s'attache Riva. et qui représente à lui tout seul la perdition de la jeunesse dans ces pays. Un enfant qui est seul, sans attache, et qui joue au jeu de l'argent, qui vend ses petits téléphones et fait ses petits marchés comme finalement les grands. Voilà.
Pauline ?
Oui, encore une fois, je vais essayer de résumer. Moi, je suis d'accord. Enfin, j'ai vraiment trouvé que c'était un film extraordinaire. C'est un film très, très nerveux, très impulsif. Donc, c'est sûr que le spectateur n'est jamais laissé sur la route parce que le déchaînement de violence est absolument constant. Et moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que je trouve que la pénétration dans Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, est vraiment étonnante. C'est-à-dire qu'on va vraiment pénétrer par strates. Toutes les couches de cette ville, de cette société, vont tomber une à une grâce à cette constante, comme vous l'avez bien matraqué, qui est le vice, la moralité, le sexe, la violence, le crime, tout ce qu'on veut. Donc moi, j'ai vraiment trouvé que c'était cette percée, cette incursion qui était intéressante, parce que c'est-à-dire que Riva, il arrive, le premier endroit où il arrive, c'est quand même la maison de son ami, qui n'est pas particulièrement riche, contrairement aux autres rois du pétrole et autres malfrats. Donc il arrive chez cet ami-là, qui s'appelle JM, il me semble, enfin, en tout cas, ça doit être son surnom. Et il va petit à petit, donc on comprend en fait que c'était son ami d'enfance qu'il a laissé un peu en chemin et qu'il retrouve. Lui, s'est marié avec sa femme, a eu des enfants. Et donc Riva revient. Et c'est là que commence tout le vice déjà, et je trouve que vous en avez pas assez parlé, c'est que c'est JM qui est censé représenter le père. Et le père et le mari va se faire entraîner dès le début. Il revêt son ancien costume de sapeur, super tendance. Ça rappelle un peu les sapeurs de Brazzaville. Et donc pour accompagner son ami dans ses aventures complètement folles, dans les virées en boîte, avec l'alcool. Donc je trouve que c'était intéressant de retranscrire, comme vous l'avez dit, cette perversion sur toutes les couches, que ça soit église, justice, etc., mais aussi à l'intérieur des couches sociales en elles-mêmes. C'est-à-dire que JM va vraiment, ce personnage un peu électron libre qui va tourner autour de Riva, il va prendre une importance parce qu'il va vraiment devenir... comme lui, finalement, il va lui mendier quelques pièces pour se taper une prostituée. Il va dire à sa femme qu'elle baise mal et qu'il veut plus de ses enfants parce qu'elle lui a pondu deux horribles mômes. Enfin, ça se retourne complètement, ça devient complètement invraisemblable. Donc moi, j'ai vraiment aimé cette incursion, enfin je ne vais pas parler d'analyse, mais cet enchaînement-là. Après, je suis pas pour les scènes de sexe. Je suis pas d'accord. Je trouve qu'elles sont très très belles. En fait, il y a des scènes de transe en fait dans des sortes de maisons closes où on va avoir des danses africaines avec des masques et des peintures corporelles. Donc certes, c'est très exotique, très suggestif et peut-être de mauvais goût, mais je trouve que c'est finalement très sensuel, c'est très bien filmé. On a des plans, on a des gros plans sur un bout de peau, le bas du dos. Une nuque, un bras, un sein, enfin je sais pas, mais c'est une façon très sensuelle de filmer. Une très belle scène dans la baignoire avec Riva et sa conquête qui est très belle aussi. Il y a une lumière très douce, donc c'est un plan comme ça qui saisit juste la baignoire et le corps à corps assez sauvage. Donc moi j'ai trouvé au contraire que c'était vraiment des scènes très très belles.
Belle, mais très, très très suggestive, quoi. Je veux dire, c'est
et surtout, c'est surtout cru, la fameuse scène où elle monte sur le rebord de la fenêtre
de la salle de bain,
où elle lève sa jupe et alors qu'elle est en fait dans la maison de son vrai mari et que Riva vient frapper à sa fenêtre. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment piquant. L'humour dans la violence, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une musique complètement en décalage, donc une musique de fête qui va être montée justement pour cacher les cris et les coups. On a vraiment une surenchère, mais qui tombe pas, à mon sens, dans le mauvais goût, parce que le propos est assumé jusqu'au bout. Après, est-ce qu'il y a un message ? Je ne suis pas sûre, si ce n'est celui qui est évident, que absolument tout le monde est corrompu et que la méfiance règne dans tous les personnages. Donc, c'est-à-dire c'est-à-dire même une conquête, même un amour, il faut s'en méfier parce qu'elle peut, elle peut dénoncer. Et il y a aussi quand même, ce que j'ai aimé dans ce film, et ça sera mon dernier argument, c'est qu'on a toujours l'impression que ça va être la fin, que, c'est-à-dire que chaque destin va tomber d'une seconde à l'autre. Et ça donne vraiment cette tension au film qui fait que chaque personnage est menacé de mort, c'est-à-dire qu'il peut se réveiller. Un personnage se réveille content après une nuit d'amour et il se fait tabasser. Donc certes, c'est un parti ultra violent, mais à mon sens tout à fait réussi. Bravo pour ce film et je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est un super moment de cinéma.
Alors après cet éloge dithyrambique de Pauline, on va passer au dernier film de l'émission, L'amour et rien d'autre, qui est un film allemand de Jan Schomburg avec particulièrement Sandra Hüller, Georg Friedrich alias, il m'a semblé, Johnny Depp en mode allemand, et Felix Knopp. Donc c'est un film qui raconte la vie d'une femme qui a trouvé l'amour de sa vie et qui est mariée et qui va déménager avec son homme à Marseille, mais cet homme meurt et donc on va la suivre dans son parcours de reconstruction et dans une nouvelle idylle naissante. On vous passe une partie de la bonne annonce.
Was ist das eigentlich für ein Land, in dem der Himmel so ausschaut? Denkst du nicht auch manchmal, dass man woanders leben sollte? Irgendwo, wo immer die Sonne scheint. Frankreich.
Marseille.
Voilà, alors Pauline, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?
J'ai trouvé que c'était un très beau film, encore une fois, décidément, cette semaine, bonne programmation. L'amour et rien d'autre. Moi, j'ai surtout retenu le mot amour, forcément. L'amour et rien d'autre, je trouve que c'est un très beau film, mais surtout parce qu'en fait, il est assez perturbant, je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que ce film retranscrit avec un naturel complètement déconcertant le veuvage, en fait. Martha perd son mari Paul, qui se suicide du jour au lendemain. Donc, il a été promu... Il a été promu du jour au lendemain à Marseille et le couple a une perspective de vie qui s'ouvre à eux, un bon moment à passer dans leur vie de couple. Paul part en avance et laisse Martha à Cologne et le lendemain, Martha apprend que Paul s'est suicidé. Donc je trouve que ce qui est complètement perturbant dans ce film, c'est que Martha a une réaction qui est assez inattendue. On la voit, elle pleure finalement très peu. D'abord, elle est dans le refus complet. Donc ça passe dans ses gestes, dans son visage qui reste absolument impassible, complètement hébété de l'apprendre, mais pas dans le sens figé, tragique, mélo, vraiment quelque chose, une impassibilité. Elle se précipite, pardon, vas-y.
Ouais, il y a une absurdité comique totalement, enfin je trouve, tu parles que ça va pas dans le tragique, au contraire ça va peut-être plutôt plus dans le comique, enfin quand elle l'appelle pour lui dire rappelle-moi, il y a des policières qui sont en train de me dire que t'es mort, je ne veux pas le croire, enfin c'est vrai que ça peut faire sourire et que du coup, l'émotion ressentie, au final, est plus forte, il m'a semblé.
Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord, c'est absolument déconcertant. Après, on peut comprendre qu'elle refuse de l'admettre tout de suite, mais c'est vrai que le fait d'appeler directement Paul sur son téléphone rajoute au côté invraisemblable de la situation. Et donc, ensuite, on va voir ce qui s'enchaîne avec cette annonce-là, c'est une autre chose très perturbante, je trouve, qui est la continuité de la vie, en fait, la continuité du monde et tout ce qu'elle a d'absurde. C'est-à-dire que quand un proche meurt, même quand c'est le mari, même quand c'est l'enfant, on doit choisir un cercueil. Et il y a une scène absolument cynique où elle se retrouve, où Martha donc doit choisir le cercueil pour Paul, et elle se retrouve avec un mec absolument donc avec le vendeur complètement exalté par ses choix, alors plutôt bois italien, bois sombre, ébène, clair, donc il lui fait un peu l'inventaire de tous ces cercueils là donc il y a un côté complètement superficiel et qui montre donc cette nécessité complètement complètement incompréhensible qui est de continuer et la marche sociale en quelque sorte. Donc c'est cet aspect-là, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et donc ensuite, pour continuer dans l'ordre du film, Martha, en faisant ses démarches auprès de la police, le cercueil, l'organisation, tout au long de ce moment-là, elle va errer dans tous les sens, tout en gardant cette sociabilité dérangeante qui fait qu'on est obligé, quand quelqu'un meurt, d'être entouré et de se soumettre à des
à des procédures, à certaines procédures. Donc elle va rencontrer un autre homme qui s'appelle Nino et qui va très vite devenir une sorte de reflet de Paul. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à nouveau de très troublant parce que Martha va complètement projeter ce qu'elle avait emmagasiné, capitalisé finalement dans son mari décédé. Et Nino va très vite, elle va adopter un naturel avec lui complètement déconcertant, c'est-à-dire que Nino va venir chez elle comme ça, ils se sont à peine rencontrés et elle se retrouve déjà à poil devant lui d'une façon complètement indifférente et très très naturelle, comme si finalement aucun homme n'était parti de chez elle et qu'elle continuait sa vie amoureuse dans la continuité de la mort de Paul finalement. Et très vite on voit les échos entre les deux situations, entre les deux hommes. Bizarrement, enfin, Nino est aussi promu à Marseille, ils ont aussi des perspectives de vie, ils s'inventent un futur avec des enfants. Donc on a vraiment ce parallèle qui s'instaure entre les deux hommes et qui gravite autour de cette veuve qui reste impassible et avec un visage plutôt illuminé en fait, très souriant, qui rajoute à cet aspect déconcertant du film. Donc moi j'ai trouvé que par cet aspect-là, c'était plutôt une réussite.
Agathe ?
Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voudrais aussi souligner le fait qu'on voit pas l'enterrement de son mari. Mmh. Et du coup, il n'y a aucune fracture, aucun moment où on la voit pleurer, faire son deuil vraiment. Et donc c'est encore pire que les cris, les pleurs, les larmes. C'est justement qu'il n'y a pas de fracture et du coup, ça continue. Et elle se reconstruit jamais, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas un travail de deuil en repensant à son mari, qui d'ailleurs était un imposteur total. Mais elle va juste trouver un autre homme et recommencer la même histoire avec cet homme et quelque part opérer un travail de transformation qui est complètement déconcertant et même assez, je sais pas comment dire, assez, qui fait peur. Oui, qui est amoral, c'est exactement ça. Elle renie complètement son mari, à part à certaines scènes, dans certaines scènes plutôt rassurantes où on voit que finalement, notamment avec beaucoup autour du téléphone portable, que elle se rappelle l'existence de son mari, son vrai mari. Et donc voilà, je voudrais aussi souligner que j'ai beaucoup aimé la lumière qu'il y a dans le film. Ça m'avait pensé à un peu un appareil photo argentique, tout ce qui est même les vêtements, etc. C'est très neutre, mais ça va bien, c'est souple.
C'est très lumineux, je trouve.
Oui,
même le visage, même au niveau de la lumière, ouais. Elle a une peau très pâle. Et en même temps, elle sourit, enfin, elle a des expressions très prononcées. Et ça,
très naturel.
Ça surenchérit sur cette luminosité.
Bah, c'est-à-dire que oui, c'est lumineux et il y a un côté joyeux, comme tu le dis, dans les expressions de cette femme. Et il y a en même temps, je trouve, par la mise en scène, un aspect de solitude extrême. Mmh. On la voit souvent en train d'errer dans... justement à l'université, qui est un lieu immense, très très blanc, et elle est filmée en plan large, de sorte qu'on voit autour d'elle, il y a rien, juste des murs blancs, et cette femme complètement illuminée qui ne réagit pas comme il faudrait à la mort de son mari. Mais
elle reste toujours dans la séduction en fait. C'est une femme qui est très séduisante, et même pour l'enterrement de son mari, le seul moment où on en parle, c'est quand elle choisit sa tenue. Elle est toujours dans vraiment la séduction. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait des très beaux plans, notamment les scènes d'amour, toutes les scènes dans les lits. La caméra agit comme un regard, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'effet, l'élément distinctif qui est très apparent. Et derrière, un flou, la scène aussi du bus où elle rencontre justement le deuxième homme et qui joue sur les regards entre les deux personnages. Donc j'ai trouvé que l'utilisation de la caméra, enfin par la réalisatrice, était très intéressante aussi de ce côté-là.
Oui, je pense que c'est un film vraiment très très déroutant pour toutes les raisons que vous avez données, et également dans sa structure et dans son air de ne pas y toucher en quelque sorte. C'est-à-dire que après la mort de Paul, donc son mari, le premier homme, on se dit qu'on va se diriger vers une comédie romantique plutôt un peu, enfin, sur le deuil, sur la reconstruction et évidemment sur la naissance d'un nouvel amour. Et du coup, quand ce nouvel amour arrive et qu'il arrive beaucoup trop tôt, que Paul est à peine enterré, que déjà elle rencontre Nino, on se dit mais il va droit dans le mur, c'est n'importe quoi, et on ne fait pas des choses pareilles. Enfin, il y a un délai de décence même dans un film qui est souvent respecté dans les comédies romantiques les plus banales. Et au final, ce qu'on se rend compte à mesure que cette deuxième histoire d'amour avance, c'est que là n'est pas le propos. L'idée n'est pas de montrer la reconstruction par un nouvel amour et de montrer les différentes étapes du deuil qui aboutissent finalement à une reconstruction, mais vraiment cette chose extrêmement dérangeante et presque surnaturelle par moments d'un deuxième homme qui est le premier. Et cette idée qu'on n'est pas l'enterrement et que tu as souligné, Agathe, je pense que c'est vraiment très intéressant parce que au lieu d'avoir la rupture de la mort et l'idée d'une deuxième partie, ça m'a plutôt fait penser à quelque chose comme 10 ans plus tard, avec le même homme qui n'est pas mort, qui répond toujours à son téléphone, qui... n'a pas pu faire ce qu'il a fait parce que c'était un homme comblé qui avait réussi avec brio sa thèse de médecine. Et c'est vrai que tout ce qu'elle découvre sur ce premier mari, c'est très intéressant et très touchant parce que c'est un peu comme dans L'Adversaire d'Emmanuel Carrère où on a un homme qui a menti toute sa vie parce que il a dû échouer à un moment ou à un autre et que du coup il s'est construit une vie pour mentir à celle qu'il aime. Et au final c'est ce que elle reprend à son compte dans la deuxième partie, puisque elle construit avec le deuxième homme une vie totalement fantasmée et qui se termine évidemment à Marseille, donc là enfin l'endroit d'où tout est parti au départ. Et il y a quelque chose de très drôle dans cette fin. Outre dévoiler la fin, je pense que à la fin du film, toute fin du film, le générique de fin se termine sur Magic System, sur un plan du port marseillais. Et c'est très très drôle d'avoir cette incursion à la fois de la culture française et à la fois de cette idée un peu de pop, de comment dire, de culture populaire dans un film qui est finalement assez peu accessible, qui est très travaillé, qui veut quand même se distinguer justement de la masse des comédies romantiques. Et c'est vrai que cette idée de jamais être dans des sentiers battus m'a vraiment paru très intéressante et au final plutôt touchante. Alors on finit l'émission avec quelques coups de cœur. Agathe, tu voulais nous parler du film Nana.
Donc je voulais juste vous parler de Nana, c'est un film de Valérie Massadian qui est sorti cette semaine au cinéma.
La semaine dernière
au cinéma, désolée. Et c'est un film qui se rapproche presque du court-métrage, qui est vraiment pas très long, il dure à peu près 50 minutes, et qui se passe à hauteur d'enfance, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une petite fille de 3 ans qui se retrouve livrée à elle-même. Et donc tout le film se déroule autour de cette petite fille très autonome et perdue sans sa mère. Et justement, c'est intéressant ce que la réalisatrice a réussi à faire autour de cet enfant seul. Ce n'est pas le film le plus attractif ni drôle ou émouvant, mais simplement, je pense que le travail de cette réalisatrice est à souligner parce qu'il a un certain intérêt.
Pauline ?
Oui, moi je voudrais vous parler d'un film turc, enfin turco-allemand, enfin il y a plusieurs nationalités, mais le réalisateur est turc. Il s'appelle Özkan Alper. Ce film, c'est Le Temps dure longtemps. Donc Le Temps dure longtemps, en fait, c'est l'histoire d'une jeune étudiante qui s'appelle Sumru, qui étudie à l'université d'Istanbul en ethnomusicographie. Enfin, je sais pas trop comment on dit, mais en gros, elle fait sa thèse sur les élégies kurdes. Qui en fait étaient chantées lors des massacres kurdes. Et en fait, Sumru va se rendre donc dans les contrées anatoliennes pour continuer sa recherche. Donc ce film, moi je ne vous le conseille pas parce que en fait c'est malheureux parce que on a des films comme ça qui sont très beaux esthétiquement, qui ont vraiment qui abordent des sujets très intéressants. Il y a vraiment une des très belles images qui alternent entre des scènes d'intérieur où on joue beaucoup avec la luminosité qui vient des fenêtres. En fait, les pièces sont souvent plongées dans l'obscurité et on a un jeu avec la lumière venant de l'extérieur. Donc c'est vrai que ça donne des plans très très beaux. On a aussi des très beaux plans d'ensemble du paysage, des images de dos de Sumru en fait qui déambule dans les rues de la ville où elle se trouve, avec vraiment un jeu de lumière et de couleurs très très beau. De même, le le thème abordé me semblait très intéressant, c'est-à-dire que, évidemment, le film parle du souvenir et de la vocalité du souvenir, en fait, c'est-à-dire comment il va ressortir par les élégies, par le témoignage. Donc on a beaucoup un jeu sur l'enregistrement. Soumrou va passer son temps à enregistrer tout ce qu'elle entend, tous les sons, tous les témoignages, mais aussi la musicalité du marché, d'un atelier de forgeron. Donc il y a vraiment ce travail sur le son qui est d'habitude une constante, une partie de la mémoire qui est oubliée dans le vide de l'existence et qui là est réhabilitée et qui fait vraiment partie de la vie de Soumrou. Donc moi je trouvais que ce thème-là était très intéressant. Malheureusement, le film se perd dans cet esthétisme, dans la lenteur des scènes, puisque finalement le thème qui était celui de la parole se transforme en celui du doute, de la stagnation, d'un immobilisme. Donc les personnages qu'elle va rencontrer, notamment celui d'Ahmet, qui est un jeune homme qui va l'aider dans sa recherche, qui aurait pu être un personnage très intéressant et très fourni, se retrouve comme une sorte de miroir qui va projeter son narcissisme dans des scènes où ils ne se parlent pas, ils se regardent, ils sont bien sûr en train de communiquer d'une certaine façon tout ce qu'ils sont en train d'emmagasiner comme information et tout ce qu'ils partagent comme émotion, mais on a ce mutisme qui prend peu à peu le pas tout au long du film, donc malheureusement une dérive esthétisante et très dommageable pour ce film qui aurait pu être très 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 beau.
Elsa ?
Oui, alors moi, comme souvent, mon coup de cœur n'est pas très récent. Voilà, j'arrive toujours après la bataille. J'aimerais juste revenir sur Shutter Island de Martin Scorsese, qui était sorti en 2010, donc, qui raconte l'histoire du Marshall Teddy Daniels, interprété par Leonardo DiCaprio, qui arrive sur l'île de Shutter Island, qui est une île où il y a un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Donc il vient là avec son coéquipier Chuck et ils sont chargés en fait d'enquêter sur les disparitions d'une des patientes, Rachel Solando. Donc c'est vraiment le début d'une espèce d'épopée dans cet hôpital psychiatrique qui est absolument, absolument fascinante. Et surtout, si vous voyez ce film, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur un article qu'avait écrit Bernard-Henri Lévy sur Hollywood et le révisionnisme, qui pose à nouveau en fait la question de la représentation de la Shoah au cinéma. Donc l'article est intéressant, pas très étayé, mais intéressant. Mais surtout, il vaut le coup d'être lu pour la réponse qu'en a fait une jeune institutrice et scénariste qui s'appelle Sophie Audoubert, donc qui a fait toute une interprétation de ce film pour défendre en fait sa représentation fictionnelle de la Shoah. Donc si vous vous intéressez à toutes ces questions, c'est vraiment absolument passionnant. Donc allez lire tous ces articles.
Alors pour finir, je voulais vous conseiller rapidement le DVD de 17 filles qui est sorti donc mercredi dans les bacs. On avait beaucoup parlé de ces 17 filles puisqu'on avait eu la chance de recevoir en interview les comédiennes du film. Et je ne vais pas revenir tant sur le film que sur le DVD à proprement parler parce qu'il y a dans les bonus plusieurs éléments intéressants, mis à part 4 scènes coupées qui sont courtes, drôles et qui, comme toute scène coupée, n'apporte pas grand-chose. On a un commentaire de l'intégralité du film par les réalisatrices. C'est vrai que c'est un exercice dont que je trouve un peu bizarre, qui peut être un peu frustrant, parce qu'on a, au lieu d'avoir la totalité du film, on a les images et dessus des gens, en l'occurrence les réalisatrices, qui parlent et qui ne laissent donc pas se développer entièrement le film finalement, mais celui-là m'a semblé très très réussi. Je trouve que Delphine et Muriel Coulin ont une grande intelligence quand elles parlent de leur film, et que en analysant chaque scène tant dans ce qu'elles disent que dans la façon dont elles sont filmées, la façon dont elles ont été préparées, ce à quoi elles ont fait appel, réussissent à brasser la plupart des thèmes du film, donc qui se nouent autour de la féminité, la grossesse, l'adolescence et bien d'autres encore, mais également elle révèle des anecdotes très intéressantes sur la préparation du tournage et notamment sur le rapport aux faits divers qui avaient inspiré ce film. Et puis elle livre aussi quelques clés de la façon dont elles ont recruté et dirigé leurs comédiens, dont elles ont conçu justement le film dans sa forme esthétique, avec les codes couleurs, avec l'idée d'un changement permanent d'échelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui, si vous avez le temps, et me semble très enrichissant par rapport à ce film que j'avais trouvé très très beau, un film qui était d'une liberté et d'une vitalité tout à fait rafraîchissante. Voilà, c'est la fin de cette émission. On vous remercie de l'avoir écoutée et on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt, au revoir.
Bonne soirée.